Sur ce point très précis, là, juste un petit mot. Moi, je suis frappé de voir qu'il y a des croisements possibles entre au moins trois corpus et certainement bien davantage. C'est le corpus des lettres, on va dire, d'abord adressées à un député ami, comme Marcel Samba, qui écrit à Samba, qui écrit à d'autres députés, qui écrit à la Commission, et qui écrit à Brison, dans un cas particulier. Donc là, il y a peut-être des croisements à faire, parce que les lettres à Brison sont quelquefois anonymes, mais pas toutes. La preuve, la lettre de Bartas, qui est absolument signée, et là, d'ailleurs, on se demande comment il n'y a pas eu de retombée, parce que ces lettres, évidemment, étaient connues, il a signé de son nom, il a signé de son grade, aux armées, bon, c'est tout à fait intéressant. Donc ça, c'est la première remarque sur ce point. Et la deuxième remarque, bon, sur un autre sujet, mais là, je lance juste une question. Moi, il y a quelque chose qui me fascine et sur lequel je n'ai pas de réponse, parce que peut-être elle existe en allemand, mais je ne pratique pas, c'est la question des minorités de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Là, je crois qu'il y a une grosse question, et si quelqu'un a une information là-dessus, moi je suis tout à fait preneur de cela.
Si je peux me permettre d'ajouter juste un point là-dessus, et c'est un sujet que Fabien Bock connaît bien mieux que moi, mais il y a aussi l'importance des députés soldats et leur prise de parole à la Chambre. Et quand on pense à Abel Ferry, par exemple, au moment de la première séance en secret, où il dit il y a le silence de la part du haut commandement, il y a la presse qui parle, la presse c'est quoi, il dit, et puis il y a les soldats. Et en fait, ce qu'il fait, c'est à sa façon, bien sûr, de prendre la parole au nom des soldats. Donc la question dans ce thème passionnant de ces différentes manières de légitimer le système militaire, est-ce qu'il existe dans d'autres pays cette prise de parole au Parlement au nom des soldats? Est-ce que c'est un discours qui est possible? Je vois difficilement, mais je n'en suis pas certain, le même discours au Reichstag, par exemple. Mais c'est pas exclu, mais en même temps, le Reichstag est marginalisé, justement, par rapport au pouvoir militaire. Ouais. Voilà. Et effectivement, il y a cette grande question de l'Empire austro-hongrois. Voilà.
Et je vais juste profiter du fait que j'ai le micro un instant pour apporter une précision sur la question des lettres aux députés. Elles expliquent aussi par le fait qu'elles sont exemptées du contrôle postal. Et c'est très important pour les soldats, puisque c'est la seule correspondance qui est exemptée, même s'il y a beaucoup d'ouverture par erreur, entre guillemets, de ces lettres. Et il y a des cartons entiers au service historique de l'armée qui contiennent des plaintes de députés qui se sont plaints que le courrier qui leur a été adressé par des soldats a été ouvert. Et donc c'est là où on voit cette dimension quand même de la ressource. Quelles sont les ressources que des individus peuvent mobiliser pour désobéir, pour recourir à des institutions, et elles sont évidemment différentes suivant la position de chacun.
Non, je reviens en arrière très vite sur la... Je m'appelle Daniel Emery. Non, pour revenir en arrière sur la question de l'autorité, qui est quand même très importante dans la plus vaste question de l'obéissance et de la désobéissance, peut-être faut-il se rappeler aussi qu'il n'y a pas les officiers, les sous-offs et la troupe, mais que la troupe a une structuration et que dans l'autorité compte aussi beaucoup l'expérience, les qualités du soldat, aux qualités techniques, hein, les bons tireurs, les mauvais tireurs, etc., tout ça, ça compte, et qu'il y a les premières classes et les deuxièmes classes. Hein, comme dans les prisons, les prisonniers sont classés. Il y a trois classes dans les prisons françaises. Hein. Dans l'armée, il y a deux classes de soldats. Et les premières classes sont souvent des hommes de transaction qui peuvent infléchir des petites décisions, qui peuvent entraîner les autres, qui entraînent les autres, c'est leur rôle. Hein. Et donc je pense qu'on ne peut pas, on ne sait rien dessus, je pense. Sur les premières classes, ils ont un galon de laine bleu. C'est pas dégradé. D'ailleurs, le caporal, c'est pas un grade. Hein. Et il y a donc une échelle de médiation, une sorte de petit système de relais qui fait que ça entraîne, il y a un effet d'entraînement qui est nécessaire pour l'obéissance, mais aussi pour la désobéissance.
Simplement, dans les Dans le fond sans bas, moi je pense que c'est à peu près 100 à 150 lettres par mois. Voilà. Qui sont conservées entièrement, numérotées par Léon Blum, parfois annotées, et dont les réponses sont conservées. Dans le fond Juliette, c'est beaucoup moins. Sans doute parce que implicitement, on a compris qu'il avait moins de pouvoir que Samba, puisqu'il est ministre d'État, son portefeuille. Et en plus, les lettres sont réparties entre son chef de cabinet et son fonds personnel. Ensuite, il y a aussi un autre problème de chiffrage, c'est que certaines lettres qui sont reçues par Samba, par ses amis, sont classées dans sa correspondance personnelle. Mais on peut aussi, par rapport aux revendications qu'il y a dedans, les considérer comme des placés combattants, d'une certaine manière. Donc, et l'autre remarque était par rapport à l'âge. En fait, une de mes hypothèses, c'est que la pratique communiste de l'autocritique est une manière pour la jeune génération formée au combat de réclamer, de niveler le rapport entre les jeunes et les vieux et de réclamer la possibilité pour elle de commander sur des vieux militants, c'est-à-dire de niveler l'idée d'expérience politique en disant nous avons appartenu à la jeune génération combattante, à la génération du feu, et nous avons le droit de prendre la direction de la révolution ou alors du parti au nom de quel que soit notre âge. D'accord, donc ça, il y a cette expérience pour des jeunes officiers, ça nourrit ensuite cette pratique spécifique de l'autocritique qui naît dès 1920-21. Voilà.
Philippe Oliveira, toujours à propos des lettres et de l'idée de croisement de corpus qu'indiquait Rémi Cazal, je me demandais si on ne peut pas rapprocher aussi ces lettres reçues par la commission de l'armée à des corpus aussi gigantesques, mais dont je ne sais pas s'ils ont déjà été étudiés en détail, qui sont les lettres reçues par les grands leaders d'opinion à l'époque. Et là, on n'est pas du tout dans la logique, on va dire, démocratique ou du soldat citoyen. Alors évidemment, une figure comme Barrès est à la fois un leader d'opinion et un homme politique, mais René Bazin, enfin toutes sortes de personnes qui les utilisent par ailleurs dans leur, mais en les choisissant, hein, les utilisent dans leurs articles. Et là, on aurait, est-ce que ce type de lettres qui, évidemment, sans doute, il faudrait voir d'ailleurs, ne répondrait pas tout à fait aux mêmes objectifs que les lettres que vous avez citées, est-ce que ce ne serait pas, elles aussi, quand elles viennent de soldats, bien sûr, des formes de désobéissance, si on suit votre logique concernant celle qu'a reçue la commission de l'armée. En tout cas, de dépassement de l'ordre interne à l'armée pour justement assurer la pérennité de cet ordre.
Merci, Denis Roland. Je voulais revenir sur le problème des officiers. Monsieur Pro a souligné qu'il y avait là un véritable chantier à entreprendre sur le rôle des officiers. Quelques observations à ce propos, puisque je suis tout à fait d'accord, c'est par exemple concernant le limogeage. Le limogeage n'est pas forcément représentatif de l'incompétence du subalterne, mais peut être aussi représentatif de l'incompétence du supérieur. Dans les limogeages du début de la guerre par Joffre, il y en a quand même qui sont tout de même douteux, et Joffre a manifestement voulu démontrer qu'il avait une bande d'incapables en dessous de lui, c'est pour ça qu'il y avait des échecs. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est Général Bach et Monsieur Lafont en ont parlé, c'est l'active et la réserve. Dans les officiers, il y a, surtout à la fin de la guerre, il y a beaucoup plus de réservistes que d'actifs. Or, ces réservistes, ils ont un comportement qui n'est plus celui d'un officier qui veut faire carrière. Eux, ils sont là à titre temporaire. Ce qui m'amène à parler aussi des officiers qui sont nommés à titre temporaire, où là, on voit que le commandement a un doute sur la capacité de l'officier, c'est-à-dire on va lui donner un grade à titre temporaire, c'est-à-dire qu'il en assure les fonctions, et puis après, au bout d'un certain temps, on va lui donner le titre définitif, ou on va le ramener au grade en dessous. Un dernier point sur la vision des soldats, on a très peu de témoignages, comme vous l'avez dit, du soldat vis-à-vis de son officier. Mais là, c'est aussi à prendre avec beaucoup de précautions. Je pense à Bartas. Bartas dit à un moment dans ses souvenirs, nous, on est dans la boue, on est dans le froid. Pendant ce temps-là, le colonel Robert, lui, il est dans sa cagna, bien au chaud, en train de manger. Donc on a tendance à penser qu'il en a après son colonel. Mais un peu plus loin, quand le colonel est tué, Bartas dit, notre bon colonel a été tué. Qu'allons-nous devenir ? Voilà, merci.
Il me semble qu'il y a un mot intéressant qui a été plusieurs fois répété ici, c'est celui de la représentativité. Si je reviens sur la question de l'âge, par exemple, évidemment qu'on ne peut pas comparer, mais à grande échelle, des témoignages de soldats, par exemple, partis en août 1914. Ceux qui avaient 20 ans n'ont pas eu la même réaction que ceux qui avaient 30 ans, qui avaient 35 ans, 40 ans, etc., etc. Et souvent, on a tendance à massifier encore le comportement des combattants et ne pas mettre en avant justement ces spécificités identitaires. Alors on a Bruno, je ne retrouve plus son nom, Benvendo, voilà, a souligné ça à plusieurs reprises dans ses interventions. Il me semble que c'est intéressant, qu'il faut absolument creuser cette question de faire de la sociologie, de travailler sur les identités et de voir un peu toute cette complexité. Ça, c'était ma première remarque. Sur la deuxième remarque, il me semble aussi intéressant de prendre le temps long de la guerre. Il faut vraiment travailler sur ce temps long, même si c'est 4 ans, un peu plus de 4 ans, mais c'est un temps long avec tout ce que l'on a montré comme le turnover des soldats qui sont là, ceux qui changent d'affectation, ceux qui arrivent, etc. Sur la peur notamment. Hein, la peur de ceux qui sont là depuis longtemps, Antoine Pro l'a souligné, mais il y a toujours ceux qui arrivent. Toujours ceux qui arrivent en 15, qui arrivent en 16, qui eux n'ont pas l'expérience du front et qui découvrent eux aussi la guerre au fur et à mesure. Donc ils n'ont pas la même appréhension de la peur à ce moment-là. Une troisième remarque sur les batailles, pour revenir sur la réflexion de Nicolas Funstadt. On n'a pas parlé du rôle des batailles dans la remobilisation des soldats et dans justement la question de l'obéissance. Hein, le fait que, par exemple, Desferrières est découragé au début, hein, l'hiver 1915, et puis il se profile la bataille de l'Artois. Et là, on sent une remobilisation de la troupe par justement les préparatifs et les rumeurs qui circulent. Il y a une question à creuser, qu'il y a déjà eu des choses de fait sur le chemin des dames notamment, mais ça serait intéressant de voir cette remobilisation successive au fil de la guerre des soldats dans l'obéissance.
Il me semble que quelqu'un a publié des